Et c'est Sébastien Logeni pour le journal. Bonjour Sébastien.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, ces Afghans qui tentent par tous les moyens de fuir leur pays, l'Afghanistan, sous la menace des talibans, une avancée inexorable qui pousse donc des centaines d'habitants à chercher un laissez-passer reportage à Kaboul dans un instant. En France, le gouvernement fait machine arrière sur le pass sanitaire pour les ados et les salariés. Pour autant, les centres de vaccination restent sous haute pression depuis hier, exemple dans une mairie parisienne. À suivre également le témoignage d'une rescapée de l'attentat du 14 juillet à Nice, c'était il y a 5 ans, la fin annoncée des paquebots dans le centre historique de Venise, et puis un coup dur pour les quartiers en Seine-Saint-Denis, le métro du Grand Paris ne sera pas prêt pour les JO 2024.
Elle a présenté hier à Cannes un film trash, percutant. La réalisatrice Julia Ducournau était très attendue avec ce second long métrage. Rendez-vous avec cet ovni du cinéma français à 7h50.
France Inter.
Ils sont prêts à l'exil pour échapper aux fondamentalistes.
Oui, des centaines d'Afghans se pressent depuis des jours à Kaboul au service des passeports. Une longue file d'attente se forme dès le petit matin dans l'espoir d'obtenir le sésame qui leur permettra de se réfugier à l'étranger et d'éviter le probable retour des talibans au pouvoir. C'est un reportage de Sonia Ghezali, la correspondante de RFI dans la capitale afghane.
Dans la file d'attente, un professeur d'anglais attend depuis plusieurs heures. Il veut récupérer son passeport et fuir en Iran.
J'ai toujours essayé d'aider les jeunes à garder espoir, mais j'ai perdu espoir. L'autre jour, je pleurais face à mes élèves. Je leur ai dit, je dois reconnaître que j'ai échoué à vous faire garder l'espoir. Ils pleuraient avec moi.
L'avancée des talibans fait craindre le pire à une partie de la population qui préfère prendre la fuite, comme ce père de famille qui patiente avec son épouse et leur fille qui n'a pas encore un mois. C'est surtout pour elle qu'il veut s'exiler.
Elle n'aura pas le droit de travailler, d'étudier, ni même le droit de vivre. Elle ne pourra pas décider de son avenir. Elle ne pourra peut-être pas rester vivante à cause des terroristes, des insurgés barbares. Donc je vois un avenir très sombre.
Derrière lui, une universitaire et son fils âgé de 10 mois dans les bras. Elle a fui le Badakhshan, dans le nord-est, capturé par les talibans.
Mon université est occupée par les talibans qui s'en servent comme d'une base militaire.
Avec son époux, elle espère pouvoir se réfugier en Turquie. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
La France, de son côté, appelle depuis hier tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan. Moins d'une centaine selon l'ambassade. Un vol spécial partira de Kaboul le 17 juillet au matin. Le péril taliban en Afghanistan. On y revient dans la chronique de Pierre Aski à 8h17. La France qui appelle à quitter l'Afghanistan. La France qui s'apprête aussi à rappeler ses soldats de la force Barkhane au Sahel. L'opération militaire prendra fin au premier trimestre 2022. Déclaration hier d'Emmanuel Macron.
Après le coup de pression du chef de l'État sur la vaccination, le gouvernement assouplit la feuille de route.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a en effet annoncé hier soir la mise en place de dérogations pour les 12-17 ans. Ils auront jusqu'au 30 août avant de devoir présenter leur passe sanitaire. Même tolérance pour les salariés des établissements qui reçoivent du public. Des adaptations qui n'ont pas changé grand-chose toutefois à la situation dans les centres de vaccination pris d'assaut depuis hier. Exemple, à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Reportage signé Alice Cachaner.
Bonjour, c'est à quel nom s'il vous plaît ?
À l'accueil du centre de vaccination, l'effervescence est palpable.
Beaucoup de premières injections, des deuxièmes aussi.
En une nuit, tous les créneaux vacants ont été réservés. Plus question donc pour le centre de vaccination de réduire la voilure cet été, bien au contraire, explique Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement.
Nous nous sommes complètement réorganisés pour nous adapter. Nous allons passer de 10 000 à 15 000 doses par semaine.
Pour assurer ces injections, il faut des bras, beaucoup de bras. Un post-it entre les mains, Pauline, une stagiaire de la mairie, sonde médecin et infirmier pour connaître leur disponibilité.
Samedi, je pourrais pas.
Les soignants sont de bonne volonté, mais il manque encore 5 médecins pour ce week-end de grande affluence. Un listing devant les yeux, Pauline les démarche les uns après les autres.
Bonjour. Oui, je vous appelle pour savoir si vous êtes disponible vendredi.
Je suis à l'hôpital malheureusement.
C'est souvent comme ça.
Compliqué, car beaucoup de médecins sont partis en congé et ceux qui restent sont débordés et il faut bien l'avouer, un peu fatigués.
On pensait enfin pouvoir souffler et ça s'essouffle pas du tout.
Marie-Charlotte Duret est médecin et gère l'organisation du centre de vaccination.
Je pense à mes vacances. pour tenir.
Un point de la situation est prévu le 21 juillet pour savoir si le centre doit continuer ou non à plein régime le reste de l'été.
Alice Cachaner, autre changement annoncé hier par Olivier Véran, la vaccination sera reconnue comme complète en France une semaine après l'injection de la deuxième dose et non plus deux semaines après. Le masque, par ailleurs, pourrait ne plus être exigé dans les endroits où le pass sanitaire sera appliqué. Le pass sanitaire qui sera exigé ce matin sur les Champs-Élysées, pass et masque obligatoire, si l'on veut pouvoir assister au défilé du 14 juillet. 5000 participants, 10 000 spectateurs maximum ce matin. Ce 14 juillet, c'est aussi la triste date anniversaire de l'attentat au camion de Nice il y a 5 ans. 86 morts, 200 blessés. Un souvenir encore très douloureux pour les survivants. Sophie Parmentier a recueilli le témoignage d'une rescapée. Elle s'appelle Aurore Pernin, elle habite Besançon, mais chaque 14 juillet, elle éprouve le besoin de retourner à Nice pour témoigner.
Aurore Pernin, jolie blonde de 39 ans, n'a raté aucune commémoration depuis 5 ans sur cette promenade des Anglais où elle a cru mourir le 14 juillet 2016 après avoir assisté au feu d'artifice.
Le plus dur, c'est en fait de parler de l'innommable. On a vu le camion percuter plusieurs personnes qui ont été projetées dans le ciel avant de retomber sur le béton. J'ai pris mon compagnon par la main parce qu'on était vraiment sur cette trajectoire pile en face du camion qui arrivait. Donc on a couru et ce moment-là, moi, je me rappelle très bien, m'être dit « je vais mourir, je ne reverrai pas mon enfant, ni mes parents, ni ma famille ». Ça, c'est vraiment un sentiment qui est très douloureux. Et c'est un sentiment qui, effectivement, quelques années après, toujours là aussi.
5 ans après, cette jeune mère de famille souffre toujours de stress post-traumatique. Mais depuis peu, elle a décidé d'en parler, de témoigner dans des lycées pour transmettre la mémoire. Aurore Pernin est aussi en train de fabriquer un album jeunesse destiné aux plus petits à qui il est si difficile d'expliquer le terrorisme. L'attentat de Nice est la première attaque qui a tué autant d'enfants. Yanis Oukilan avait seulement 4 ans. Léana, la plus jeune des victimes, n'avait que 2 ans.
Sophie Parmentier. En bref, le nombre de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe a doublé en un an. 1146 personnes sont mortes au cours du premier semestre 2021 contre 513 en 2020.
À Venise, c'en est presque fini des paquebots qui défigurent le centre historique.
Ces mastodontes des mers menaçaient ce bijou classé au patrimoine de l'UNESCO. Après des années de tergiversation, le gouvernement italien a donc décidé de les bannir à partir du 1er août, mais seulement du centre de la ville. Les précisions de notre correspondant à Rome, Bruce de Galzin.
Basta les grandi navires, les grands navires devant San Marco. Dans moins de 3 semaines, ceux qui font plus de 25 000 tonnes, ou bien 180 mètres de long, ou encore 35 mètres de tirandaire, aucun d'entre eux ne pourra plus passer devant la place Saint-Marc et dans le canal de la Giudecca juste en face. Mais ils ne quitteront pas pour autant la lagune de Venise. Le port de Marghera, sur la terre ferme, est censé être aménagé avec 5 points d'approche dans les jours qui viennent et grâce à une enveloppe de 150 millions d'euros. La mesure se veut transitoire car à terme, les géants des mers ne pourront plus du tout entrer dans la lagune, mais pas avant des mois et sans doute des années. Cette décision intervient 2 jours à peine avant la session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en Chine qui menace Venise. La Sérénissime pourrait intégrer la liste des sites en péril, à moins que cette décision in extremis de l'Italie réussisse à convaincre le comité qui votera le 31 juillet, la veille du bannissement des paquebots de croisière devant Saint-Marc. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
On revient en France avec cette grosse déception pour la Seine-Saint-Denis. Certaines lignes du Grand Paris Express ne seront pas prêtes pour les Jeux Olympiques de 2024. C'était pressenti, c'est confirmé. Les futures lignes du métro 16 et la ligne 17 qui devaient desservir plusieurs sites des JO de Paris seront livrées avec 2 ans de retard en 2026, Ajra Mohamed.
Le Grand Paris Express, c'est la promesse de désenclaver des quartiers entiers de Seine-Saint-Denis qui, sur la carte, se trouvent à peine à 10 ou 20 km de Paris. Mais en transport en commun, aujourd'hui, il faut parfois plus d'une heure à certains habitants pour rejoindre la capitale. Il s'agit aussi de faciliter les trajets interbanlieues. Et ces lignes 16 et 17 étaient devenues un peu le symbole de cette promesse. Des métros qui auraient desservi en 2024 les futurs sites des JO, comme le village des médias au Bourget. Finalement, ce sera plutôt en 2026. Le Covid est passé par là. Mais l'honnêteté oblige à dire qu'il n'y a pas que la crise pandémique, admet Jean-François Monteis, le président de la Société du Grand Paris. Il y a eu aussi ces derniers mois la difficulté à faire venir des techniciens spécialisés d'Allemagne ou encore la mort de cet ouvrier sur le chantier de la Courneuve. Les travaux ont alors été suspendus pendant 6 mois, le temps de l'enquête. Mais les 200 km de ligne du Grand Paris Express seront bien livrés en 2030, assure la SGP. On a tout commencé, on finira tout, promet son président.
Ajram Ahmad, France Bleu Paris. Le coût du chantier du Grand Paris Express, en revanche, n'a pas explosé avec la crise du Covid. On reste sur un budget de 35 milliards d'euros.
Et on termine avec un hymne à la liberté.
Hymne to Freedom du pianiste de jazz Oscar Peterson. Un hymne qu'entonnera ce soir le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf à l'occasion du 14 juillet et du traditionnel concert de Paris au Champ de Mars. Ibrahim Maalouf qui se réjouit de célébrer cette année la liberté.
Ça devrait être le thème de toutes les années. Et c'est marrant comme parfois, il y a des moments comme ça où quand on est dans une certaine situation, et je pense que en France, c'est le cas aujourd'hui. On a besoin de revenir aux fondamentaux. Et la liberté, quand même, c'est fou, ça fait quand même partie de ces droits inaliénables. Mais on se sent quand même, malgré tout, dans l'obligation de le rappeler à tout le monde. C'est quand même fou qu'à l'époque.
Est-ce qu'il y a aussi cette idée de la liberté d'être à nouveau tous ensemble pour jouer devant un public ?
Oui, de fêter la France avec toute sa diversité, avec toutes ses différences, avec toutes les générations, avec toutes sortes de musiques mélangées. Et c'est un événement que moi je suis chaque année en regardant et en me disant waouh, qu'est-ce que c'est beau, voilà, c'est chouette, la France c'est quand même cool. Et là d'un seul coup de me retrouver moi aussi dedans, j'ai tout de suite dit oui, je voudrais être de la fête.
L'hymne à la liberté d'Oscar Peterson avec Ibrahim Maalouf, c'est magnifique. Il jouera donc ce soir avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France. Une soirée à suivre sur Inter dès 21h avec Anna Sigalevitch et en simultané sur France 2.
Merci Sébastien Legénie. À demain. Belle journée. À suivre l'édito politique de Thomas Legrand.